Bienvenue, chers auditeurs, au panorama économique de ce week-end, au menu de votre magazine. Le coût pour l'ouverture d'une petite et moyenne entreprise à Kinshasa a sensiblement baissé. Une contribution de la ville-province de Kinshasa à l'amélioration du climat des affaires en RDC. Nous en reparlerons. Et puis, la direction provinciale des recettes du Kasaï oriental à couteau tiré avec la division provinciale de l'urbanisme sur place. Et ensuite, les violons ne s'accordent pas non plus entre la régie provinciale d'encadrement des recettes du Bas-Congo et la direction provinciale de la DGRAD. La brigade des recettes du Bandundu sommet d'améliorer ses performances au risque de se voir retirer le soutien de la Banque mondiale. Autant de sujets que nous aborderons dans le panorama économique de ce week-end. L'invité d'aujourd'hui s'appelle Tassi Nsungani, analyste économique, un habitué de cette émission. Bonjour Tassi.
Bonjour Agathe.
Nous signalons que héritier Sidia Kala est à la technique. Daniel Tambinzoni est avec nous dans ce studio. Bonjour Daniel.
Bonjour Agathe.
Agathe Mpona et Lema, c'est bien moi qui vous parle. Chers auditeurs, merci de nous suivre.
Panorama économique, le dossier.
Premier dossier de la semaine, le gouvernement provincial de Kinshasa vient d'assouplir l'indicateur pour la création d'entreprises et d'ouverture d'une activité économique et commerciale dans la ville-province.
Dans un communiqué signé au mois de mars et rendu public le week-end dernier, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta-Yango, ouvre un nouveau registre des autorisations d'ouverture des activités économiques et commerciales, baissant ainsi le coût de l'ouverture de petites et moyennes entreprises à Kinshasa. Guy Matondo, ministre provincial de l'économie et finances, revient ici sur le sens de cet arrêté dans cet entretien qu'il a accordé lundi à Dakota Mbikila.
À l'époque, vous savez, les gens payaient 500 dollars, 400 dollars. Le gouverneur a signé un arrêté où, dorénavant, pour ouvrir une activité dans la ville de Kinshasa, d'abord en termes de timing, vous écrivez au bourgmestre, vous réservez copie au ministre provincial des finances et de l'économie qui accuse réception. Donc, aussitôt que nous accusons réception de votre correspondance, dans les 3 jours, vous ouvrez votre activité. C'est ça, ça c'est par rapport au timing. Par rapport au taux, pour les personnes morales, grande taille, pour s'installer dans des communes, ils n'y paieront que 50 dollars. Pour les personnes physiques, donc, c'est-à-dire nous prenons commerçantes, nous prenons les PME, 35 dollars. Et pour les patentés, 10 dollars. C'est ça la participation de la ville à l'amélioration des climats des affaires.
Monsieur le ministre, cette mesure semble être alléchante, vous l'avez dit. Mais encore faut-il l'appliquer correctement. Est-ce que vous avez pris des mesures d'accompagnement pour que dans l'application, on n'enregistre pas des bavures, surtout au niveau des communes?
Oui, je vous dis qu'il y a un arrêté. Nous avons transmis l'arrêté à toutes les corporations professionnelles. Ils sont informés. La FEC, Copemeco, FENAPEC, syndicat des vendeurs. Donc, pratiquement toutes les corporations, nous les avons transmis officiellement pour que les Kinois et les Kinoises sachent qu'à partir de mois d'avril que le gouverneur a signé l'arrêté, donc, ils peuvent s'installer partout où ils veulent pour exercer une activité économique. Ils n'ont qu'à faire la demande et dans les 3 jours, dans les 7 jours, pour ce qui concerne les permis d'exploitation, ils ouvrent leur activité. Ils n'ont pas de pénalité à payer. Et c'est là à moindre frais.
Voilà, Tassi Nsungani, vous avez écouté le ministre provincial de l'économie et des finances à Kinshasa. C'est tout de même une bonne nouvelle.
Oui, c'est une nouvelle qui est appréciable, mais j'aimerais quand même rectifier ici en disant qu'il ne s'agit pas de l'amélioration du climat des affaires. À mon avis, après avoir suivi le ministre et après avoir compris ce qui se passe, il s'agit plutôt d'un encouragement à la création de la petite entreprise. Parce que l'amélioration du climat des affaires couvre un spectre beaucoup plus large que cela et pose généralement les problèmes administratifs, c'est vrai, problèmes que le ministre essaie de résoudre, mais surtout des problèmes d'ordre judiciaire, c'est-à-dire qu'il nous faut une justice qui soit en mesure de sécuriser les investisseurs et les investissements. Donc il faut aussi un accès plus souple à l'économie et au crédit. Or, il me semble que ce n'est pas le cas, donc on ne peut pas considérer que cette décision améliore le climat des affaires, parce que aussi bien la RDC de façon générale que la ville de Kinshasa reste quand même fermée pour la plupart d'investisseurs. Donc je vais schématiser en disant ceci: si aujourd'hui quelqu'un a envie de s'installer installé, a-t-il les moyens de le faire? Est-ce qu'il est sécurisé lorsqu'il est en conflit avec l'État? Je ne crois pas, parce qu'il n'existe pas encore une justice qui sécurise et qui garantit les droits. Donc là, pour me résumer, il s'agit d'une décision qui simplement vise à encourager les gens à l'initiative privée, pas améliorer le climat des affaires.
Mais disons-le quand même, quand les délais sont courts, ça encourage les entrepreneurs, donc le climat des affaires tant soit peu amélioré.
Disons que le climat des affaires commence quand on a une affaire. Donc en ce moment-là, on sait si oui ou non son affaire se trouve dans un bon climat ou pas. Donc le climat des affaires n'existe pas avant de créer l'emploi, l'entreprise, pardon. Donc je pense que l'acte est louable. Moi, je l'apprécie à sa juste valeur. C'est quelque chose de très bien dans la mesure où ça va inciter les gens à l'initiative. Parce que ça incite, ça les provoque, si vous voulez, à aller dans ce sens-là. Mais maintenant, une fois que l'affaire est créée, peut-on considérer que l'affaire est sécurisé? C'est maintenant là, en ce moment-là, qu'intervient maintenant le climat des affaires. Je pense que jusque-là, non.
Deuxième dossier de la semaine, c'est la brigade des recettes du Bandundu qui a reçu un ultimatum de la Banque mondiale.
Elle a pour cela 3 mois pour améliorer sa performance au risque de voir la Banque mondiale lui retirer son appui financier qui s'élève aujourd'hui à 2 millions de dollars américains. C'est le président de l'Assemblée provinciale du Bandundu qui l'a annoncé aux députés et provinciaux lundi dernier. C'était lors de l'ouverture de la session ordinaire du gouvernement provincial. Une correspondance de Rombo Kadima de la radio Bandundu FM.
La brigade de recettes du Bandundu est une institution provinciale de la province du Bandundu créée il y a 2 ans. Elle est financée par la Banque mondiale à hauteur d'environ 2 millions de dollars. Au cours de son discours d'ouverture de la 10e session de l'Assemblée provinciale le lundi dernier, le président de l'Assemblée provinciale du Bandundu a révélé à la population que la brigade de recettes du Bandundu a 3 mois pour améliorer sa performance et réaliser au minimum 100 000 dollars par mois. Faute de quoi, la Banque mondiale lui retirera son appui financier. De son côté, les directeurs provincial de la brigade des recettes de Bandundu, André Ngaslaki Biémé, prouve que le résultat actuel est fonction de moyens mis à la disposition de la brigade et la nature de la province qui n'a pas favorisé une bonne politique financière pour le captage des recettes dans la province. La direction de la brigade des recettes de Bandundu décline de ce fait toute responsabilité des performances et des contre-performances de personnes dans cette brigade. La plupart l'ont été, souligne-t-il, sur les critères autres que la compétence. À la question savoir comment atteindre en 3 mois les résultats qu'ils n'ont pas obtenus pendant 2 ans, le directeur de la brigade des recettes de Bandundu a répondu que les paris ne pas gagnés. Pour rappel, le financement de la Banque mondiale a servi au recrutement du personnel, aux imprimés de valeur, à la formation du personnel et à la construction d'un bâtiment administratif. Depuis Bandunduville, Rombo Kadima, Bandundu FM, pour la radio Kapi.
Voilà, et nous retrouvons Tati Ntsungani dans ce studio. Il analyse et commente avec nous l'actualité économique de la semaine. Selon vos analyses, Tati Ntsungani, comment une régie provinciale peut en arriver à ce niveau-là, 2 ans depuis qu'il a été créé, mais il produit presque rien?
Écoutez, il faut d'abord connaître la nature de la province du Bandundu. Lorsqu'on se réfère au poids fiscal en termes de recettes de la province dans le budget de l'État, je pense que si ma mémoire est bonne, sauf erreur ou omission de ma part, c'est la province la moins riche et qu'elle ne pèse pas. Donc je pense qu'en termes de priorité, il aurait fallu d'abord voir affecter cet argent. 2 millions de dollars, c'est quand même une somme importante. Je pense qu'il fallait l'affecter à des provinces qui sont contributives au budget de l'État, améliorer la perception de ces recettes au niveau de ces provinces-là, plutôt que de voir une province, je ne veux pas porter des propos injurieux, mais je pense que lorsqu'on s'apesantit, on réfléchit, on observe le poids financier de la province, comment peut-on exiger de cette province d'atteindre un résultat en 3 mois de 100 000 dollars quand l'assiette, parce que c'est ça, je suis fiscaliste de formation, il faut une assiette. Est-ce que dans cette partie de la République démocratique du Congo, existe-t-il des recettes susceptibles d'être récupérées par cette brigade? Si la réponse est oui, ok, donc la brigade a du travail. Si la réponse est non, on ne peut pas créer ex nihilo des recettes qui n'existent pas.
Donc, mais justement, quand on crée une brigade des recettes, c'est à elle de voir dans quelle mesure où elle peut tirer l'argent pour enflouer les caisses de l'État.
Déjà, le mot brigade suppose qu'il y a trafic, il y a des activités illicites. Parce qu'on ne crée pas de brigade là où tout va bien. Quand on crée une brigade, c'est qu'on a des appréhensions, donc on estime qu'il y a de l'argent à récupérer. C'est-à-dire que celui qui crée la brigade sait où se trouve cet argent. Mais il n'a qu'à dire à la brigade où se trouve l'argent pour que celle-ci puisse la récupérer. Moi, je pense plutôt qu'il s'agit d'une mauvaise allocation de ressources. C'est-à-dire que cette ressource aurait pu servir à améliorer des services, des divisions de recettes provinciales ailleurs, qui sont déjà plus ou moins performantes pour leur permettre d'augmenter leur capacité.
Et elle serait devenue quoi, la province même du Bandundu, si on ne donne pas les moyens et peut-être des outils pour se construire elle aussi?
Il faut d'abord construire l'entrepreneuriat. Parce que pour qu'il y ait recettes, il faut qu'il y ait des entreprises, qu'il y ait des sociétés. S'il n'y a pas de sociétés, il n'y aura pas de recettes. Les activités de la province sont des activités agricoles qui sont généralement faites par des paysans. Maintenant, on crée une brigade qui va contrôler, qui va percevoir quoi, où et sur qui. Donc c'est ça le problème. Donc il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Il faut d'abord essayer de réfléchir, de faire des études pour savoir si cette province est en mesure de générer des recettes et s'il y a des fraudes et le cas échéant, voir dans quelle mesure une unité de répression peut être créée pour qu'elle aille dans le sens de récupérer ce qui est dû au trésor. S'il n'y a rien à récupérer pour le trésor, pourquoi créer une brigade? Il faut créer plutôt des affaires, des entreprises, ou alors inciter à la création des entreprises, comme l'ont fait Kimbu Tematon à Kinshasa.
Exactement, et ce troisième dossier au Kasaï oriental, cette fois-ci, un bras de fer oppose la division provinciale de l'urbanisme à la direction provinciale des recettes.
Et à la base, le recouvrement de la taxe sur l'autorisation de bâtir. Les deux services se refusent mutuellement la qualité de contrôle et de la perception des frais dus à l'autorisation de bâtir. Il en appelle ainsi à l'arbitrage de la hiérarchie. C'est une correspondance de Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
La division provinciale de l'urbanisme et la direction provinciale de recettes vivent à couteau tiré depuis la semaine dernière. Le bureau de recouvrement de recettes provinciales diffuse un communiqué sur les chaînes locales. Il appelle les contribuables de ne plus recevoir que seuls ses agents pour le recouvrement de la taxe sur l'autorisation de bâtir. Pour la DEPER, cette taxe fait partie des actes rétrocédés à la province par le ministère des Finances. Il fait allusion à la note de service du ministère des Finances du 10 février 2011. La division provinciale de l'urbanisme rétorque encore par un message radio diffusé. Elle reste la seule ayant qualité et droit de délivrer l'autorisation de bâtir, de contrôler et dénicher les constructions anarchiques, de délivrer l'autorisation d'implantation et de taxer les frais des pylônes métalliques, indique les communiqués. Le chef de division invite la direction provinciale des recettes d'arrêter cette forme de tracasserie de la population en cette matière. Pendant ces temps, la population contribuable ne sait pas en qui se confier. D'autres sont obligés de payer deux fois la même taxe. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Mbujimayi, Radio Okapi.
Bon week-end à toi, Emmanuel Elameji en Mbujimayi. Et nous retrouvons Tati Tungani. Comment régler ce genre de conflit?
Moi, je pense que le reportage nous dit très clairement qu'il y a une note de service qui existe et qui attribue la compétence de la perception de cette recette à un service précis. Donc, normalement, il ne devrait pas être question de conflit. Mais malheureusement, et encore toujours, cela pose le problème du biftec. Comme vous le savez, le biftec, c'est le nerf de la guerre, donc l'argent. Et là, il me semble que c'est du biftec qu'il s'agit, plus que une question d'organisation des compétences de service. Et étant donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, que une correspondance de l'autorité compétente existe et qu'elle attribue à un service précis de faire
le droit de percevoir cette
taxe. Donc, il ne devrait pas y avoir conflit. Donc, le conflit devrait cesser de lui-même. Mais comme toujours, c'est le biftec. Donc là, c'est vraiment nos communs, c'est au service attitré de le faire et pas à l'autre.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quelques nouvelles en bref. 192 milliards de francs congolais chaque année, soit environ 208 millions de dollars américains. C'est la perte qu'affiche l'économie de la RDC chaque année en raison des mauvaises conditions de l'assainissement.
Ces chiffres sont publiés dans un rapport du programme Eau et Assainissement de la Banque mondiale. L'étude constate que la majorité de ces coûts provient de la mort prématurée de 90 400 Congolais. Les coûts de la santé représentent environ 8% du total des coûts économiques, tandis que les temps d'accès et les pertes de productivité représentent près de 4%.
Et le lancement lundi à Kinshasa par l'autorité de régulation des marchés publics ARMP de la deuxième vague de formation des acteurs intervenant dans la commande publique. Cette formation, qui s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités en gouvernance, concerne près de 180 acteurs évoluant dans la commande publique. Avec le soutien de la Banque mondiale qui finance ce projet, l'ARMP se propose de doter la République démocratique du Congo, pays en pleine phase de reconstruction, des acteurs bien formés et compétents dans le secteur des marchés publics, secteur qui couvre plus de 60% des dépenses publiques. Et nous retrouvons Tatine Tsungani dans notre studio. Qu'est-ce que cela vous inspire d'entendre que, par exemple, la RDC perd 208 millions de dollars américains dans son économie suite aux mauvaises conditions d'assainissement?
Mais je pense que les mauvaises conditions d'assainissement de la ville de Kinshasa sont simplement la conséquence d'une mal-gouvernance, d'un mal-être de l'État, d'un mal-vivre de l'État. Et malheureusement, ce n'est qu'un des nombreux aspects négatifs de cette mauvaise approche en termes de gouvernance. Je le regrette, mais nous l'avons toujours dit et décrié, même ici dans ce plateau, autant il y a un problème d'assainissement, mais autant il y a aussi un problème de prise en charge sanitaire des malades. Parce qu'aujourd'hui, quand un Congolais fait un AVC, il est condamné à mort. Il n'existe pas de structure sanitaire appropriée. Il n'existe pas des médecins formés, recyclés, et la formation médicale même pose de problème. Il n'existe pas des charges, comme on le voit même dans certains pays africains, pour permettre à ce que les gens puissent transférer ou canaliser les rebuts, les déchets que la consommation de la société génère.
Vous pensez que l'insalubrité empêche les investisseurs de venir au Congo pour des affaires?
Non, ce n'est pas ce que je dis, mais ce que je dis, c'est plus que... L'insalubrité est une conséquence d'une mauvaise gouvernance. C'est une conséquence d'un style de vie des Congolais. C'est une conséquence de l'absence de l'État, pratiquement. Donc, il faut s'attaquer aux causes. Aujourd'hui, il y a l'insalubrité. On va investir dans l'insalubrité. J'ai vu déjà à la télé le gouvernement prendre cela en main. 129 millions de dollars seront octroyés à la ville de Kinshasa pour lutter contre l'insalubrité. Mais quelles sont les causes de l'insalubrité? Si on ne lutte pas contre les causes, chaque année, le gouvernement va débourser 129 millions de dollars
pour lutter contre les conséquences. Oui.
Absolument. Il faut savoir d'où vient cette insalubrité. À quoi est-elle due? Comment la combattre? Comment, et c'est, il y a quelques temps,
S'il vous plaît, Tati, je peux vous retourner la même question. D'où elle vient, cette insalubrité? Pourquoi elle vient? Les causes de l'insalubrité, c'est quoi?
C'est une culture, c'est un style de vie, comme je l'ai dit. Je voulais dire, renchérir en disant qu'il y a un moment, il y a quelques années, on suivait sur une chaîne de télévision locale une campagne de sensibilisation et d'éducation civique. Ne pas jeter le sachet dans la rue, ne pas faire ceci, ne pas faire cela.
C'est bien beau, mais quand il n'y a pas de poubelle, on fait quoi?
Mais justement, il faut créer des poubelles. Mais il ne faut pas que ça se limite à créer des poubelles. Il faut éduquer les masses. Voyez-vous, dans les maisons déjà, on le voit, même dans certaines maisons, les gens jettent des histoires par terre dans leur propre maison.
Et Tati, qu'est-ce que vous répondrez à ces gens-là qui pensent qu'il faudrait plutôt développer une politique au niveau des provinces, de sorte que qu'il n'y ait pas... Aujourd'hui, on connaît une forte exode rural. Tout le monde trouve Kinshasa comme un paradis où on va trouver du bonheur, mais quand ils arrivent à Kinshasa, ils n'ont pas ce boulot, ils n'ont pas ce qu'ils cherchaient, ils sont dans la rue, chacun vient avec sa mentalité. Il serait mieux, selon certaines personnes, de revaloriser les provinces, comme ça les gens peuvent retourner en province et la ville de Kinshasa aura moins d'habitants et peut-être on peut réussir à ça.
Oui, c'est une des solutions. Qu'est-ce que les gens viennent chercher à Kinshasa? Ils viennent étudier. Mais créer les universités à l'intérieur. Qu'est-ce que les gens viennent faire à Kinshasa? Ils viennent se faire soigner. Créer des bons hôpitaux à l'intérieur. Qu'est-ce que les gens viennent faire à Kinshasa? Ils viennent chercher du travail. Mais créer de l'emploi à l'intérieur. C'est aussi simple que cela. Cela pose le problème d'une politique économique de l'État qui n'existe pas. on laisse aux provinces un certain nombre d'attributions, mais en même temps, on les empêche de pouvoir atteindre leurs objectifs par des moyens budgétaires. Donc, on veut quelque chose et en même temps, on fait son contraire.
Je voulais rebondir, Agathe, sur l'RMP. Vous savez, c'est une nouvelle institution, disons, si je peux l'appeler ainsi, l'autorité de régulation des marchés publics. Vous avez appris qu'il a été créé une institution de ce genre. Comment vous l'avez accueilli?
Pour moi, c'est inutile, mon cher ami, c'est inutile. Je ne vois pas à quoi cela servira. Est-ce qu'on a évalué pour savoir si les choses se sont améliorées? Je ne crois pas. Je crois que le problème n'est pas dans cette autorité dont la création ne me pose pas personnellement un problème. Mais je pense que le problème de gestion des finances et des fonds de l'État doivent se faire d'une manière différente. C'est-à-dire les allocations, les affectations, comme l'a dit le nouveau Premier ministre, doivent obéir à une règle de résultat. On vous donne 10 millions de dollars. Qu'avez-vous fait avec cet argent? On audite, on inspecte. Et lorsque les responsabilités sont dégagées, on frappe. Ce n'est pas le cas. Alors on va multiplier les autorités. Aujourd'hui, c'est l'autorité des régulations des marchés publics. Demain, ça sera une des autorités de régulation. On va déréguler. C'est-à-dire qu'on tourne en rond alors que nous tous savons, et les gouvernants et les gouvernés, nous savons où se trouve le problème. C'est un problème de gouvernance, c'est-à-dire d'hommes. Il faut mettre les hommes qu'il faut, c'est-à-dire qui ont les compétences, mais ce n'est pas tout. Il faut sanctionner, mettre fin à l'impunité. Il faut arrêter avec un État où ce sont les politiques qui gèrent le pays, alors que ce doit être des experts qui doivent gérer le pays, comme cela se fait dans le monde entier.
Panorama économique, reportage.
Le reportage de la semaine concerne cette liqueur forte prohibée appelée à Kinshasa Supunatolo, interdite de vente dans la capitale. Le gouvernement provincial vient de renouveler cette mesure. Il dit lutter contre la production de cette boisson en s'attaquant aux vendeurs et aux consommateurs. Le reportage de la semaine est signé d'Ako Tambikila.
Selon le ministre provincial de l'économie et finances Guy Matondo, les producteurs de cette liqueur n'ont jamais reçu les quitus de l'Office congolais de contrôle pour sa production. Il s'agit donc d'une boisson alcoolique commercialisée illégalement dans la ville. Pour les financiers de la ville province de Kinshasa, à défaut de s'attaquer à la production de cette liqueur, un secteur régulé par le gouvernement central et parfois protégé par certains dignitaires du pays, il faut s'attaquer à la consommation.
Le gouvernement provincial, au niveau de la ville de Kinshasa, je crois dans toutes les provinces, nous n'organisons que la phase de consommation. Ce qui est de la production et des importations, ça c'est régenté au niveau du gouvernement central. Donc, ce que nous allons faire, comme le gouverneur de la ville, à plusieurs reprises, a demandé à ce qu'on puisse arrêter l'importation et la production de ces soupes et qu'au niveau de décider qu'il devait arrêter ces importations et ces productions, ne l'ont pas fait, nous avons pris la décision au niveau du gouvernement provincial de ne plus autoriser la consommation de cette liqueur à travers la ville. Donc c'est par rapport à cette décision du gouvernement provincial que nous, en ce qui concerne le ministère de l'économie, nous venons de signer un ordre de démission où nous demandons à nos agents de descendre sur le terrain pour essayer de contrôler, de voir qui sont ceux qui continuent à vendre les soupes natolo à la population. Et ils seront pénalisés.
Depuis ce lundi donc, une cinquantaine d'agents de la division économique de la ville de Kinshasa, accompagnés par les OPJ des différentes communes de la ville, sont sur terrain. Leur mission, identifier les revendeurs et les points de consommation de cette liqueur, les interpeller et fixer les pénalités. Seulement, il y a lieu de préciser que Supunatolo est un terme générique désignant toute liqueur forte fabriquée localement ou à l'étranger. Il y a donc crainte de bavure. Guy Matondo rassure que ces agents sont bien outillés pour faire la différence entre les boissons fabriquées en bonne et due forme et celles qui sont prohibées, communément appelées Supunatolo.
Et voilà, Tatine Tsungani, cette énième interdiction de consommer, de vendre cette liqueur appelée Supunatolo. Apparemment, le gouvernement semble impuissant par rapport à ce phénomène.
Ben, j'ai noté deux ou trois choses. C'est que c'est étonnant que de la bouche même du ministre provincial de l'économie, qu'il puisse avouer que le gouvernement central est incapable, je dis bien incapable, d'empêcher l'importation de ces produits. C'est qu'il y a un problème quand même. C'est pas normal. Et puis deuxièmement, vous savez, nous avons appris à l'école, l'État est une puissance publique. Puissance veut dire que l'État a les moyens de faire cesser un certain nombre de choses. Ou alors, nous sommes en face d'un État qui ne sait pas faire agir sa puissance publique. Comment le ministre dit qu'il est obligé de s'en tenir qu'à empêcher la consommation. Il n'est pas capable d'empêcher et la production, et la distribution,
et
l'importation. Donc lui, il va vers ceux qui consomment, donc nous. Or, il me semble que le Congolais a le droit de consommer ce qu'il veut, même sa propre mort. On ne peut pas interdire à quelqu'un de consommer ce qu'il achète sur le marché.
C'est donc une énième mesure vouée à l'échec.
Madame, depuis que nous avons commencé, je vous dis qu'il y a un problème de gouvernance dans ce pays.
Mais moi, Tati, je pense peut-être qu'une façon de décourager les producteurs, parce que lorsqu'il n'y a pas de consommateurs, ce ne sera plus la peine. Le producteur n'est pas un philanthrope, c'est quelqu'un qui court derrière le profit s'il ne sait plus écouler ses produits. Peut-être qu'il va arrêter la production parce qu'il n'y a pas de preneur.
Vous imaginez qu'en République démocratique du Congo, il y a des producteurs clairement identifiés qui vendent des produits qui sont prohibés, dont les adresses sont connues, on ne les arrête pas, mais on arrête ceux qui sortent leur argent pour consommer. Est-ce que nous sommes dans un état où nous sommes dans la jungle? Alors moi je dis que puisque ces gens sont connus et qui sont clairement identifiés, mais c'est eux qu'il faut arrêter, pas les consommateurs. Nous sommes dans quel monde? C'est le monde à l'envers. Moi, je comprends plus rien.
Ils payent des taxes à l'État.
Mais vous savez qu'il y a des mafiosos qui peuvent payer des taxes à l'État. Ils vendent la drogue. Dans des pays civilisés, ces gens-là, on les arrête. Même s'ils paient des milliards à l'État, on les arrête. Leur place est en prison. Donc, il faut commencer par interdire l'importation. Arrêter ceux qui importent, arrêter ceux qui produisent, arrêter ceux qui vendent et distribuent. Plutôt que d'arrêter ceux qui consomment, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je pense que les auditeurs seront d'accord avec moi.
Et c'est sur ce commentaire que le panorama économique de ce week-end touche à sa fin. Tati Ntsungani, merci d'avoir été des nôtres pour commenter l'actualité économique de cette semaine, en espérant bien sûr que cela ne soit pas pour la dernière fois.
Non, bien sûr.
Daniel Tembinzoni nous a accompagnés. Héritier Sidiakala était à la technique. Toute l'équipe économique de la Radio Okapi vous donne rendez-vous du lundi au vendredi à 18h15 de Kinshasa. Dans Écho d'économie, Agathe Mpona et Lema vous souhaitent un bon week-end en compagnie des programmes de votre radio.